Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Nos trois experts ce matin en plateau, François Eckhall, fondateur de FIPECO.fr, professeur d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, bonjour.
Bonjour.
Roland Gillet, professeur d'économie financière à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles. Vous êtes également conseiller auprès de différentes autorités publiques et privées. Bonjour. Et bonjour également à Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion.
Bonjour.
On va parler évidemment de ces chiffres attendus aujourd'hui du côté de Bercy. Bercy qui va confirmer que nous sommes en dehors des clous en matière de réduction des déficits. Selon les chiffres qui circulent déjà ce matin dans la presse, le déficit pour cette année serait compris entre 5 et 5,1% du PIB contre un objectif de 4,4%. Concrètement, il va falloir trouver des mesures d'économie supplémentaires. On va commencer avec vous, François Eckhall, avant de parler d'économie, éventuellement de hausse d'impôts. On va faire un état des lieux. Est-ce que la situation est aussi grave que certains veulent bien l'affirmer ?
Elle est grave, mais elle n'est pas catastrophique non plus. Aujourd'hui, la dette publique française est très élevée, mais on continue à emprunter sans aucun problème. Le marqueur des craintes des marchés financiers, c'est l'écart entre les taux d'intérêt français et allemands. Cet écart, il est à peu près toujours le même, entre 40 et 60 points de base depuis déjà très très longtemps. Il n'a pas spécialement bougé. Parce que je pense que, à tort ou à raison, les marchés se disent que si jamais il y avait un problème, la BCE serait là pour intervenir, etc. Mais c'est quand même un problème à long terme parce qu'en effet, on se met dans la situation d'être dépendant d'une décision qui un jour sera prise à Francfort et la BCE, juridiquement d'ailleurs, a les moyens d'intervenir en quantité illimitée même pour soutenir un État, mais dans certaines conditions. Il faut que cet État respecte les règles budgétaires européennes, il faut qu'il ait une dette publique soutenable, comme disent les économistes. Donc grosso modo, qu'elle ne soit pas sur une pente ascendante incontrôlée. Donc ça ne sera pas gratuit, voilà. Donc on prend le risque un jour de devoir prendre des mesures beaucoup plus difficiles que celles qu'on envisage aujourd'hui.
Marc Vigneault, dans les colonnes de l'Opinion, vous alertez souvent sur la dette de notre pays. Je donne quelques chiffres, hein. 3 000 milliards d'euros, on les a dépassés, pratiquement 112% du PIB. Il n'y a que deux pays qui font pire que nous en Europe, c'est la Grèce et l'Italie.
Oui, et c'est ça qui est un problème, c'est la divergence des dettes publiques en zone euro. Il y a deux groupes de pays et cette divergence entre les deux groupes de pays ne cesse de s'accentuer. Et comment on fait une zone monétaire qui fonctionne bien avec des pays qui sont de plus en plus divergents, qui n'ont pas du tout le même intérêt dans la copropriété, c'est ça qui peut paraître un peu inquiétant. Et c'est vrai que là, ce qui est aussi inquiétant, c'est que le gouvernement s'était engagé à ramener le déficit à un certain niveau. C'était un peu faites-moi confiance, voilà ma stratégie, je vais l'appliquer. Et puis au milieu de la stratégie, patatras, il y a un truc qui se passe et ça ne marche pas. Et donc tout le monde se dit aujourd'hui, revenir sous 3% de déficit en 2027, comme s'y est engagé Emmanuel Macron, c'est plus très crédible. Ça demande des efforts budgétaires auxquels personne ne croit.
Ça complique les relations au sein de l'exécutif, on en parlera dans quelques instants. Roland Gillet, en pourcentage du PIB, la France est moins endettée que l'Italie. Mais nous, on a un déficit primaire en France, c'est-à-dire qu'on est obligé d'emprunter pour boucler les fins de mois. Ça n'est pas le cas de l'Italie. Est-ce que de ce point de vue-là, la situation de la France n'est pas plus grave que celle de l'Italie, qu'on présente souvent comme étant l'homme malade de l'Europe?
Mais le point de départ, comme vous l'avez rappelé, heureusement d'ailleurs pour la France, est meilleur en France qu'en Italie. Et c'est vrai aussi d'ailleurs dans l'écart des taux, on voit bien que les Italiens payent encore plus cher leurs emprunts par rapport aux Allemands. Donc il y a quand même une certaine logique et une orthodoxie que la France a, que les Italiens n'ont pas montré par le passé. Par contre, moi, ce qui m'inquiète effectivement, c'est que la France continue, malgré le pacte de stabilité, le nouveau pacte de stabilité qui devrait entrer en vigueur assez rapidement maintenant, puisqu'il a été avalisé, il reste encore quelques points, mais il va rentrer. Là, il va être sur les dépenses, mieux que les déficits. par le passé, et donc le contrôle va être plus fort. Et c'est pas un hasard si Emmanuel Macron a choisi 2027. C'est parce qu'aujourd'hui, on va devoir donner une trajectoire à 4 ans. C'est l'État lui-même qui va devoir le donner, donc c'est beaucoup plus crédible, puisque c'est lui qui va suivre ses propres efforts. Il a même le droit, s'il fait vraiment ce qu'il faut, mais qu'il se passe certains événements qui peut justifier, à avoir 3 années de rabiot, donc ça l'amènera à 7 ans, mais il faut au moins qu'il y ait une trajectoire qui aille dans un sens. Moi, ce qui me fait peur ici, c'est qu'on va annoncer un déficit qui est probablement plus grand pour 2023, chiffre révisé, et en 2024, on va continuer à faire, je m'excuse, pire. Et donc, si on monte au-delà de 5%, c'est vrai qu'on est dans le peloton plutôt à la fin du peloton, et que c'est un grand pays, c'est pas n'importe quel pays, vous me direz l'Italie aussi, mais on connaît la dérive italienne, avec des corrections justement qui vont plutôt dans le bon sens. Et donc ça m'inquiète effectivement qu'en dehors du déficit primaire, en dehors d'autres éléments où la France est peut-être meilleure encore pour le moment que certains autres États, on continue cette voie pour un grand pays qui doit quand même respecter le pacte de stabilité, qui a d'ailleurs été l'année dernière, au moment où on l'a décidé, le plus regardant sur les exceptions par rapport à l'Allemagne, qui disait non, il faut quand même un cadre à un moment donné, c'est vous, les pays, j'entends, qui allez donner la trajectoire, il faut au moins qu'on s'y tienne. Or, ici, je vois déjà qu'on ne s'y tient pas.
Bruno, pardon, excusez-moi.
Non, de ce point de vue, je crois qu'il faut quand même ajouter qu'on ne fait pas de la réduction de déficit budgétaire ou essayer de maîtriser la dette pour faire plaisir aux autres pays. Parce qu'il y a un petit peu ce côté, c'est imposé par l'Europe, qui nous oblige à avoir une politique austéritaire, qui nous empêche d'avoir de la croissance, etc. Si on veut maîtriser notre dette, c'est qu'on veut que la charge de la dette ne dérive pas trop, c'est qu'on veut pas que la charge de la dette devienne le premier budget de l'État, et parce qu'à un moment on risque, de manière très graduelle et sans que personne ne sache à quel moment ça va se produire, on risque de perdre la confiance des investisseurs internationaux, parce qu'on n'est pas les États-Unis, parce qu'on n'a pas la croissance des États-Unis, parce qu'on n'a pas la croissance de la productivité des États-Unis. Et donc il faut un petit peu mettre de l'ordre dans nos finances publiques, et même des gens comme l'ancien chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, qui lui dit on peut s'endetter dans certaines conditions, qui est plutôt favorable à ne pas appuyer trop fort sur le frein. Il dit quand les taux d'intérêt sont supérieurs au taux de croissance ou égal au taux de croissance, il faut revenir à un déficit primaire, justement hors charge d'intérêt de la dette, qui est à peu près de zéro. Et donc on en est très loin, et donc ça nécessite,
on est plutôt
un
vers
ajustement.
3,6,
hein. Oui. Voilà, oui. On est plutôt autour de ça. Donc cet ajustement, c'est pas quelque chose qu'on nous impose de l'extérieur, c'est quelque chose qui est nécessaire à terme. Alors la question, c'est le rythme. À quel rythme on le fait ? Il ne faut pas appuyer trop fort sur le frein, trop brutalement, sinon effectivement on casse la croissance. Mais c'est pas, il faut dire aux Français, bien expliquer, que c'est pas juste pour faire plaisir à l'Allemagne.
Oui, je pense aussi quand même qu'il faut faire attention aussi, surtout quand on est un grand pays, de rappeler toujours qu'on ne le fait pas pour les autres. Quand on fait partie d'un club, vous l'avez rappelé, et qu'on est un pays important qui impose aussi ses décisions et qu'il est plutôt dans l'assouplissement par rapport à l'Allemagne, à un moment donné, si on veut être crédible vis-à-vis des autres et aussi crédible dans son propre pays, il faut au moins respecter ce qu'on a soi-même demandé. Donc ici, je répète, les 2027 par Emmanuel Macron, je pense que c'est intelligent de rappeler qu'il veut aller vers les 3%. C'est d'ailleurs ce qui lui sera demandé. Et deuxième chose, comme vous l'avez bien fait, également, de le rappeler, c'est expliquer à la France et aux Français, mais je pense qu'ils le savent aussi, qu'une gestion de la dette publique comme une gestion du déficit, ça doit au moins avoir une trajectoire. Et c'est ce que demande d'ailleurs l'Europe aujourd'hui. C'est pas de dire on va faire de l'austérité gratuite, on va casser la croissance, mais c'est au moins d'avoir un retour vers quelque chose qui rend la dette. C'est quand même incroyable aujourd'hui. Une entreprise n'oserait jamais dire ça, ma dette est juste soutenable. Moi, j'aurais jamais pensé dans ma vie en tant que professeur d'économie financière que j'aurais dû te parler de soutenabilité d'une dette. De solvabilité, oui, et d'une solvabilité, même si elle est assurée à long terme, me suffit. Mais on voit quand même que dans certains pays, je ne dis pas du tout la France, on est sur une soutenabilité qui peut effectivement être engagée si on continue à dévier et qu'on a cette fameuse effet boule de neige dont vous avez parlé, où effectivement les charges d'intérêt monteraient parce que les taux d'intérêt montent, et où on aurait un effet d'entraînement et un effet dévastateur sur l'économie elle-même.
François Eckel, on va parler des pistes d'économie, assurance chômage, jours de carence, pression sur les collectivités locales. On a eu pas mal d'informations ces derniers jours. Est-ce que les Français sont prêts à accepter ces économies ? On sait que dans notre pays, on a plus souvent tendance à augmenter la colonne des recettes que de toucher à la colonne des dépenses, parce que les Français sont attachés au modèle social et se mobilisent assez facilement.
Je ne crois pas qu'ils soient plus prêts à accepter des hausses d'impôts que des baisses de dépenses. Je
pense. Sauf que l'impôt sur le revenu ne concerne que 40% des Français.
En plus, c'est déjà beaucoup. Oui. Vous avez déjà quand même, dans les 40%, il y a déjà beaucoup de gens. Non, je pense que les Français, historiquement, je pense qu'on peut remonter très très loin au siècle précédent. Les Français ont toujours voulu, je dirais, plus de services publics, plus de redistribution et moins d'impôts. Hein. Ils ont déjà fait une révolution en 1789, parce qu'ils pensaient qu'ils payaient déjà trop d'impôts. Donc, non, ils sont allergiques et ils ne voient pas le rapport entre les dépenses publiques et les impôts, donc justement, enfin d'un côté ils demandent plus de dépenses et de l'autre côté ils voient qu'ils payent plus d'impôts mais ils font pas le rapport entre les deux, et ça s'est aggravé ces dernières années. Moi j'ai toujours dit que le quoi qu'il en coûte était nécessaire, hein. Il fallait soutenir l'activité, tous les pays l'ont fait plus ou moins, on peut discuter des mesures.
On a été particulièrement généreux.
Pas nettement plus que les autres. Non, il y a des pays qui en ont moins fait parce qu'ils en avaient moins les moyens. Typiquement, par exemple, l'Italie en a fait moins parce qu'elle était beaucoup plus endettée.
Ils n'avaient pas les moyens.
Mais les Allemands ou les Hollandais en ont fait autant que nous. Mais de toute façon, c'est pas le problème. Il est ailleurs. Il fallait le faire. Le problème, il est que malheureusement, mais c'est un effet, c'était inévitable, mais malheureusement, ça a donné l'impression que l'argent public pouvait couler à flot sans limite. Donc, il suffisait de demander des milliards pour avoir des milliards et que les milliards arrivaient sans aucune difficulté. Donc je pense que dans ce contexte-là et avec en plus l'absence de majorité pour le gouvernement au Parlement, je pense qu'il est totalement, en effet, quasiment impossible aujourd'hui, socialement et politiquement, soit d'augmenter les impôts, sauf de manière très marginale, on peut en parler sur certaines niches, bon, on peut faire des choses à la marge, mais on ne va pas augmenter la TVA, ni l'impôt sur le revenu, ni la CSG, et on ne va pas non plus réduire drastiquement les dépenses, parce que c'est une dépense publique, c'est toujours un euro qui va dans la poche de quelqu'un et cette personne, en général, n'est pas contente.
Roland Gillet, je vous pose la question différemment. De plus en plus d'économistes nous disent qu'on n'arrivera pas à un déficit à 3% du PIB uniquement avec des mesures d'économie.
Mais non, avec des mesures d'économie uniquement, non. Donc il faudra à un moment donné s'interroger aussi sur les impôts eux-mêmes. Et donc, évidemment, les niches fiscales, c'est une manière d'augmenter les impôts, parfois qui semble indolore, mais enfin, l'indépendant qui fait son compte en fin d'année, il se rendra quand même bien compte que le net dans la poche a quand même baissé. Et donc, clairement, plus la personne sera liée au monde de l'activité économique, je le crois, au départ, un indépendant, par exemple, ou une petite société, lui, verra très vite sur son compte de résultat, quand on lève une niche fiscale, mais qu'il y a moins dans l'assiette au bout des opérations. Et donc, clairement, aujourd'hui, et je reviens sur ce qui vient d'être dit, d'avoir fait croire que pour des choses très graves comme la pandémie, on pouvait le faire, et que comme on l'a fait, et la France n'est pas quand même si mal cotée au niveau de sa dette publique et ainsi de suite, pour des petits problèmes beaucoup plus mineurs, pourquoi ne le ferait-on pas encore? Ça, c'est la tentation de ce que voudrait la population.
C'est-à-dire qu'on était habitué au mode open bar et il suffisait de tendre la main.
Et je peux vous dire qu'en Belgique, je raconte plus ou moins la même chose à les concitoyens. C'est le côté wallon est beaucoup plus côté français que les flamands du côté allemand. Mais c'est amusant, c'est de leur dire qui finalement va payer l'impôt. Moi, je peux vite régler mon problème. Pour la définition d'un riche en Belgique, à mon avis, c'est comme en France. C'est quelqu'un qui gagne juste un euro de plus que vous et qui va faire l'effort à votre place. Donc, c'est très facile, mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, si on touche l'impôt sur le revenu, c'est par exemple 40% de la population. C'est autre chose d'un point de vue. Et en plus, dans une année électorale, hein, je pense aussi qu'il y a cet aspect-là qui va jouer énormément.
Emmanuel Macron s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. Marc Vigneault, est-ce que vous avez le sentiment que la parole présidentielle sera respectée ou est-ce qu'on va jouer sur les mots ? Pour beaucoup de Français, pas de hausse d'impôt, ça veut dire on ne touche pas à l'IR, l'impôt sur le revenu, et l'IS, l'impôt sur les sociétés. Il y a aussi la TVA, il y a aussi la CSG.
Non, mais ils ne toucheront pas à court terme, on verra après 2027, mais a priori, ils ne toucheront pas à court terme, ou en tout cas pas en 2025, aux grands impôts. Ça, c'est une ligne totalement rouge pour Emmanuel Macron. Sa ligne, c'est plutôt les baisses d'impôts ou pas d'augmentation et stabilité fiscale. Après, la discussion, c'est comment peut être reçu, par exemple, l'année blanche, qui est la grande idée de Sylvain Maillard, le chef de groupe à l'Assemblée nationale, pour faire des économies. Alors, il dit, lui, année blanche, ça veut dire pas d'augmentation, par exemple, des retraites, donc des indexations de l'inflation, pas d'augmentation des prestations, mais pas de revalorisation non plus du barème de l'impôt sur le revenu, alors qu'il y a quand même encore un peu d'inflation. Donc ça, est-ce que vous dites c'est une hausse d'impôt? Facialement, Non, c'est pas une hausse d'impôts, mais c'est une façon d'augmenter les impôts de manière un peu cachée. Alors, si ces petites hausses d'impôts sortent dans le débat public comme étant le reniement de la politique d'Emmanuel Macron, bah là, ça va être très compliqué. Si par exemple, il touche au crédit impôt recherche, qui coûte à peu près 9 milliards par an. Maintenant, c'est dans la discussion, Bercy a lancé une revue de dépenses sur les aides aux entreprises, qui sont quand même assez importantes, même si elles compensent des niveaux de prélèvements obligatoires extrêmement élevés et que les entreprises françaises restent plus taxées que les autres. Il y a quand même des niches dont on peut s'interroger sur l'efficacité. Donc s'il augmente, s'il rabote un tout petit peu le crédit d'impôt recherche, évidemment que le MEDEF va hurler à la hausse d'impôts. S'il décale la baisse de la CVAE qui est prévue l'année prochaine, 2027. Un impôt de production pour les entreprises, et qui dit bah finalement on vous avait dit 4 milliards l'année prochaine, après c'était plus que 1 milliard de baisse par an, et
ça puis maintenant jusqu'en 2027.
On le reporte encore d'une année, bah, les entreprises trouveront un moyen, les représentants des entreprises, de vous dire, ah, on renie la politique fiscale du gouvernement, c'est le début des hausses d'impôts, c'est l'équivalent d'une hausse d'impôts. Vous mettez tout ça en cumulé, il peut y avoir une petite musique qui est, ça y est, Emmanuel Macron augmente les impôts. Après, moi, je crois qu'il ne faudra pas trop crier au loup. Si on veut que les finances publiques soient bien tenues, il faut faire un effort principalement sur les dépenses. Mais c'est vrai qu'à court terme, c'est très difficile de faire des économies du jour au lendemain. Il faut lancer une réforme de l'État, il faut lancer une réforme du système de santé, de tout un tas de choses qui sont difficiles à faire. Ou alors, on se contente de doubler la franchise sur les boîtes de médicaments et sur la visite chez le médecin.
Ça ne rapporte pas des dizaines de milliards d'euros.
Non, mais là, vous voyez, c'est une baisse de dépenses, ça, formellement. Mais les Français, ils le vivent comment? Vous croyez
comme
qu'ils payent
2
euros pour aller chez le médecin au lieu de 1 euro? Ben, ils le vivent comme une augmentation d'impôts. Donc, forcément, ça sortira comme une façon d'augmenter les prélèvements sur les Français.
François Eckel, il y a quelques jours, Clément Beaune dénonçait un concours Lépine des mesures d'économie. Est-ce qu'on ne va pas avoir aussi, en parallèle, un concours Lépine de la pression fiscale? C'est-à-dire, effectivement, en rabotant des niches, en essayant d'essayer de trouver quelques centaines de millions d'euros par-ci et une autre centaine par-là.
Oui, c'est assez probable, hein, en effet, parce que bon, je suis d'accord avec ce que vient de dire Marc Viau. Hein, on ne va pas augmenter le taux des grands impôts, ça, certainement pas d'ici 2027. Après 2027, tout est possible. Mais on va en revanche essayer, en effet, de raboter quelques niches fiscales, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt emploi à domicile, les réductions d'impôts pour investissement locatif. Déjà, d'ailleurs, elle doit être supprimée, le Pinel, normalement, elle doit disparaître à la fin de l'année,
oui, bien sûr.
Voilà, on va faire ce genre de choses. Et comme il y en a 450 des niches fiscales, en effet, le concours, il peut y avoir un concours Lépine sur les 450 niches.
On va parler des agences de notation. Elles vont se prononcer, deux vont se prononcer dans à peu près deux semaines, et S&P à la fin du mois de mai. Roland Gillet, qu'est-ce qu'on risque? Une dégradation? Et si oui, est-ce que ça peut avoir des conséquences?
Tout dépend d'abord ce qu'on va avoir comme chiffres annoncés maintenant qui vont tomber sur le déficit attendu. Tout dépend aussi comment les marchés financiers, le contexte va évoluer. Il suffit juste qu'il y ait un problème ailleurs sur une dette qui n'a rien à voir avec la dette française et que ça ravive un peu les inquiétudes et les spreads sans même avoir les agences de notation qui agissent. Et puis surtout, je pense que c'est la trajectoire qui va être regardée. Mais de nouveau, il ne faut pas non plus crier au loup dans l'état actuel pour la France. Tout dépend, je répète, c'est vraiment cette idée, c'est vers quelle tendance va-t-on? Si chaque fois on dépasse ce qu'on a annoncé soi-même, ça va effectivement devenir beaucoup plus embêtant, et surtout de convaincre les investisseurs, parce que les agences de notation ne sont qu'une partie du problème, c'est les spreads que les investisseurs vont vouloir avoir par rapport à quelqu'un qui dit quelque chose et qui ne le fait pas. Et je pense que c'est ça qui est plus important par rapport à une dette. La solvabilité est à un point, mais la crédibilité du pays qui engage sa parole sur des éléments de fait, c'est encore plus important, me semble-t-il.
Quelques commentaires sur Twitter. Et la simplification, nous demande Ecofan, les niches fiscales devraient être soumises à renégociation tous les 10 ans. En l'absence d'accord, les supprimer. Voilà une proposition. Et autre commentaire, puisque j'ai eu l'occasion de le dire ce matin, la TVA est un impôt injuste. On me dit non, la TVA n'est pas un impôt injuste. Les produits de première nécessité ont un taux réduit. C'est ce que nous dit Edouard sur Twitter.